Merci pour votre invitation. Donc moi je vais essayer de travailler l'œuvre de vous introduire à l'œuvre de Pier Paolo Pasolini aujourd'hui, en reprenant certains points que vous avez déjà développés par ailleurs. Donc l'œuvre de Pasolini est une œuvre gigantesque, immense. Il est cinéaste, il est poète, il est romancier, traducteur, polémiste, critique, dramaturge, peintre. Pour vous donner une idée de l'étendue du travail de Pasolini, on peut dire qu'il y a plus d'une dizaine de volumes de Pléiades italiennes qui ont été publiés et plus d'une vingtaine de films réalisés. Pourtant, son parcours s'arrête net en 1975. Pasolini n'a que 53 ans lorsqu'il est férocement assassiné, massacré sur la plage d'Ostia, dans des circonstances et pour des raisons restées très mystérieuses encore à l'heure actuelle. Est-ce qu'il a été tué parce qu'il était homosexuel? Est-ce qu'il a été tué par un prostitué, par un groupe de jeunes gens qui passaient par hasard sur l'idroscalo d'Ostia? Est-ce qu'il a été tué pour ses prises de position par rapport à l'Italie qui lui était contemporaine? Position devenue insupportable non seulement à l'extrême droite de l'époque, mais aussi aux communistes. A-t-il été tué parce qu'il avait été mis au courant de scandales de corruption politique? Le procès et le mystère autour de ce meurtre restent aujourd'hui encore ouverts. Ce qui est certain, c'est que Pasolini, au cours de son œuvre, n'a jamais cessé de jeter son corps dans la lutte. C'est son expression, jeter son corps dans la lutte. Il jette son corps dans la lutte contre l'uniformisation des mœurs italiennes par la société de consommation et par les masses médias. Au plus haut de sa colère, il définissait la transformation de l'Italie, celle qui marquait les corps et les manières de s'exprimer, comme une mutation anthropologique, un néofascisme inoculé par la télévision. En donnant l'illusion du bonheur par la consommation, en contraignant à acheter plutôt qu'à vivre, le triomphe de l'industrialisation en Italie avait fait disparaître ce que lui appelait la lumière naturelle des lucioles. Les lucioles qui brillent dans le noir. L'Italie avait promu à la place de la liberté des corps un emprisonnement, un embrigadement dans ce qu'il appelle le couple hétérosexuel petit-bourgeois, visant la reproduction familialiste, visant le petit confort moderne. Je vous mets là, donc je parle sur les images, hein, je ne vais pas les commenter, éventuellement on en parlera au moment de la discussion de ces images, mais je vous mets là, sans doute une des représentantes, je vous mets la fin du film de Pasolini, c'est son deuxième long métrage, Mamma Roma, qui correspond vraiment à cette incarnation de voilà, la tentative du peuple opprimé à gagner le confort moderne, puisque Mamma Roma est une prostituée qui va jusqu'à perdre son fils pour obtenir une maison, un bel appartement. Donc je vous mets ces images-là pendant que je continue la lecture de mon texte. Donc, l'Italie avait promu à la place de la liberté des corps un emprisonnement petit bourgeois visant la reproduction familialiste. À l'heure de la libéralisation de la sexualité et du boom économique, nous serions en réalité, pour Pasolini, corsetés dans des attitudes et des mentalités sans plus aucune originalité, plates, stéréotypées. Et c'est exactement ce que montrent les dernières images du film où vous voyez l'héroïne remonter dans son appartement et voilà, dans son petit HLM bourgeois qu'elle a misérablement gagné à la force de son corps, à perdre son corps. Donc, la rage pasolinienne contre l'uniformisation des corps et du langage se traduit de bien des façons, de bien des manières. Des films, comme celui-là, des articles polémiques aux prises de position parfois très ambiguës. Articles en faveur des policiers, articles contre les révolutionnaires de mai 68, articles contre l'avortement, articles contre la liberté sexuelle, contre les cheveux longs, contre la contraception. Sa rage passe aussi par des images qui vont systématiquement provoquer le scandale. Un nombre de procès incroyable au cours de son existence. Des images qui vont d'un Eros joyeux à un Eros extrêmement funèbre. Des images qui systématiquement vont défier les lois du genre hollywoodien. Des images qui vont promouvoir ce que j'appellerais une sorte d'esthétique de l'opacité. Esthétique du sourire édenté, du regard caméra, de l'éclat de rire assourdissant, du soleil éblouissant. Sa rage s'exprime aussi par une écriture poétique et romanesque, engagée, blasphématoire. Recueil de poèmes qui s'appelle Blasphème. N'hésitant pas à faire retentir les chants des peuples mineurs et des subalternes, rarement convoqués à la première personne dans l'histoire de la littérature. Il fait parler les ragazzi, les prostituées, les homosexuels, les prolétariats, le sous-prolétariat, les peuples africains. Le style de Pasolini est typiquement celui du discours libre indirect, du discours où la voix du narrateur disparaît pour laisser retentir directement les voix des personnages, afin que le lecteur ait l'impression de les entendre comme s'il parlait à la première personne. Donc ce que Pasolini fait entendre s'exprime en dialecte à l'opposé de l'italien moyen, de la langue journalistique, de l'italiano standard. Ils sont sans argent, ce sont des sans-pouvoir, des humiliés. Toutes celles et ceux qui aspireraient à une vie meilleure et qui finiront par perdre leur diversité à cause du capitalisme. Tous ceux et celles qui, à cause du capitalisme, finissent par être marqués par la normativation de leurs désirs, de leur manque d'expression, de leur comportement. De façon tout à fait visionnaire, Pasolini a cerné comment le progrès de l'histoire, le politique, le social ont réussi à passer du mouvement de l'exclusion à celui de l'inclusion. C'est-à-dire que le progrès capitaliste ne rejette pas les sujets, mais au contraire les accueille pour leur faire profiter de désirs illusoires de la consommation. Toutes les jouissances sont donc bonnes pourvu qu'elles rapportent. Ainsi, il peut écrire dans Tétis, parce qu'ils ont obtenu la liberté sexuelle par concession, sans devoir se la gagner, les jeunes bourgeois, mais aussi surtout les prolétaires et les sous-prolétaires, ont transformé cette liberté en obligation. Il y a donc toute une tension inhérente à l'œuvre de Pasolini. Et cette tension, je crois qu'elle passe tout entier par les corps. Pasolini, c'est une écriture et un cinéma qui est fait de corps. Le corps que Pasolini filme, écrit, décrit, exalte ou renie, est toujours un corps tendu entre jouissance et langage. Jouissance heureuse, simple, dans un premier temps de son parcours. Douloureuse, cruelle, irregardable, à la fin de son parcours. Le langage est, de son côté, chez Pasolini, tantôt authentique, singulier, dialectal, et il s'écrit pour la première fois, c'est le travail qu'il va faire sur le dialecte frioulant, par exemple, en élevant le dialecte frioulant à la dignité de la poésie, ou le pareil avec le dialecte romain qui l'élève à la dignité du roman, ou bien à l'inverse, le langage sera normé, sans âme, stéréotypé. C'est le langage symptomatique de la publicité des sociétés de l'ultra-abondance. Alors, pour notre après-midi préparatoire, il me semble que le corps pasolinien pourrait être, dans sa tension entre jouissance et langage, pris comme un corps parlant. Car, à n'en pas douter, c'est un corps, pour reprendre l'expression de Nietzsche dans l'ouvrage, qui parle et qui jouit. Je dirais aussi que le corps pasolinien est à la fois marqué par une vitalité désespérée et par la nécessité de la mort. Alors, sur la nécessité de la mort, je continue à parler, mais je vous montre un rêve qui est très beau, qui est à la toute fin du premier film de Pasolini, qui s'appelle « A Cattone », et où vous avez le personnage principal qui rêve de sa propre mort. Alors je vais maintenant, donc, pendant que ces images défilent, j'essaye de vous faire un petit topo sur la mort chez Pasolini. Dans ses essais intitulés « Empirisme hérétique », les essais sur le cinéma, il définit le cinéma comme la langue écrite de la réalité. Et il y affirme « Il est absolument nécessaire de mourir, parce que tant que nous sommes vivants, nous manquons de sens ». La mort accomplit un montage foudroyant de notre vie. Donc au fond, pour Pasolini, la mort est un élément fondamental de la compréhension du corps. Elle marque de son sceau, de sa béance, le corps pasolinien. Toute l'œuvre pasolinienne est marquée par la mort. On pourrait d'ailleurs faire un rapprochement avec ce qu'un critique littéraire comme Blanchot écrit sur Kafka. Je cite Blanchot, il dit... en lisant Kafka, j'écris pour mourir, pour donner à la mort sa possibilité essentielle, par où elle est essentiellement mort, source d'invisibilité. Mais en même temps, je ne puis écrire que si la mort écrit en moi. Fait de moi le point vide où l'impersonnel s'affirme. En fait, je ne meurs jamais, tu ne meurs jamais, on meurt. C'est la mort, c'est la splendeur de l'impersonnel pour Blanchot. C'est la splendeur de l'impersonnel où vient s'abîmer justement l'auteur au profit de l'œuvre, où vient briller le fragment au détriment de la totalité. Donc la mort, c'est ce qui inscrit notre finitude à même le corps et qui va requérir l'éternel recommencement du geste d'écrire. Il me semble que pour Pasolini, comme pour Blanchot, le raisonnement est le même et il est en fait assez simple. Si on écrit, c'est pour comprendre le monde, pour lui faire face. Or, comment faire face au monde sans faire face à la mort? On ne peut pas passer la mort sous silence. Blanchot écrit encore dans l'espace littéraire. Il faut donc partir non plus des choses pour rendre possible l'approche de la mort vraie, mais il faut partir de la profondeur de la mort pour me tourner vers l'intimité des choses, pour les voir vraiment avec le regard désintéressé de celui qui ne se retient pas lui-même, qui ne peut pas dire « je », celui qui n'est personne, la mort impersonnelle. Bref, être auteur pour Blanchot comme pour Pasolini, je crois, c'est accueillir cette finitude, c'est se perdre soi-même pour accueillir l'altérité de l'espace littéraire. Noyade du narcissisme, disparition du vedettariat, irrésolution infinie de l'écriture dans l'autre nuit qu'est la mort. Alors, évidemment, quand on dit ça et quand on reprend le thème blanchotien de la mort et qu'on l'applique à Pasolini, on pourrait se dire qu'il y a une sorte de fascination artistico-littéraire pour le mourir. Hein, on pourrait faire l'hypothèse presque d'une, et ça a été fait dans l'histoire de la critique pasolinienne, d'une co-responsabilité de Pasolini face à son propre assassinat. C'est-à-dire que, entre guillemets, il l'aurait un peu cherché, quoi. En effet, c'est d'autant plus frappant cette hypothèse que dans un texte de 65, donc 10 ans avant de se faire brutalement assassiner sur la plage d'Ostia, Pasolini écrit un livre qui s'appelle La Divine Mimesis. Et il s'y met en scène comme un éditeur d'un roman qui aurait retrouvé et qui aurait écrit, d'un roman qui aurait été écrit par un autre auteur. Et cet auteur, explique Pasolini qui joue le rôle de l'éditeur, aurait été tué à coups de bâton à Palerme. Donc de manière presque prémonitoire et vraiment funèbre, Pasolini décide de la publication du roman quelques mois avant même de lui-même être assassiné sur la plage d'Ostia à coups de bâton. On peut donc trouver dans l'œuvre beaucoup d'indices de cette prégnance de la mort et d'autres mises en scène. Il s'agit donc bien de comprendre la place qu'elle occupe dans l'œuvre pasolinienne. Donc moi, il ne me semble pas qu'il faut tomber dans une superposition simplificatrice où on aurait d'un côté la réalité de la mort de Pasolini comme une sorte d'un aboutissement du rôle et de la place qu'il octroyait à la mort pour son œuvre. Sa mort reste un assassinat injustifiable. En revanche, je crois que l'attention et la mise en scène de la mort dans son œuvre nous renseignent sur la façon dont la sublimation se décline sous un jour nouveau, à partir du moment où l'on passe d'une logique décryptant le sujet de l'inconscient de manière métaphorique à une interprétation du par-l'être, selon l'expression de Camille. Cette place de la mort dans l'œuvre pasolinienne enseigne la psychanalyse, mais pas seulement. Elle enseigne aussi par rapport à la création contemporaine et ses représentations du corps. À la Biennale de Venise, l'an dernier, au Giardini, la première salle s'ouvrait sur une salle monumentale de Fabio Mauri, qui était entré non seulement par le drame de la Shoah, mais aussi par la voix de Pasolini. Il y a une véritable incidence de l'œuvre de Pasolini chez les artistes les plus contemporains, c'est-à-dire des gens qui pratiquent l'art à l'heure actuelle. Donc là, Fabio Mauri, il est évidemment décédé, il connaissait Pasolini, mais vous avez quelqu'un comme Angel Vergara, qui fait feuilleton en 2011 et qui rend hommage au travail cinématographique de Pasolini. Vous avez quelqu'un comme Adrian Paci qui va refaire les dessins de films, de photogrammes de Pasolini. Et puis vous avez une artiste belge comme Merline Debruyker qui fait des sculptures en hommage à Pasolini. C'est comme si la manière dont le corps pasolinien avait été écrit et filmé, sa façon de jouir et de rire, ouvrait sur ce qui se fait de plus contemporain dans le champ de l'art contemporain. Il y aurait comme une sorte d'intempestivité du corps parlant pasolinien et de sa tension entre vie et mort, langage et jouissance. Il continue d'inspirer d'autres artistes, mais peut-être qu'il ne les inspire plus de façon ascensionnelle, mais je dirais plongeante, comme si les artistes plongeaient avec Pasolini toujours plus profond dans les liens, dans les raies qui nouent le corps et la mort. Alors, je vais maintenant m'appuyer sur le texte d'Hervé Castanet qui se trouve dans Silicette pour préciser un petit peu ce que je veux dire. Il me semble que Castanet explique très très bien qu'il y a deux formules de la sublimation chez Lacan. La première se trouve du côté de l'éthique de la psychanalyse, c'est ce que vous avez rappelé, Marie-Hélène, au début des années 60, et elle s'énerve comme suit: élever l'objet à la dignité de la chose. Castanet note, à la suite de Miller, la dimension ascensionnelle, la dimension d'élévation propre à cette conception de la sublimation. Bien que la formulation de Lacan soit très originale, peut-être qu'elle gardait encore la marque de la sublimation telle que Freud pouvait déjà la formuler dans son Léonard. Je vous rappelle la phrase célèbre du Léonard de Freud: la pulsion sexuelle est douée de la capacité de sublimation, c'est-à-dire en état d'échanger son but immédiat contre d'autres buts non sexuels, éventuellement placés plus haut sur l'échelle des valeurs. Bon, ça c'est dire que la sublimation offre un plus de sens, qu'elle tire l'humanité vers le haut, qu'elle transcende le sexuel vers le spirituel, vers le beau. Selon cette logique, sublimer équivaudrait à arracher les pulsions du terrain de la simple satisfaction sexuelle pour leur faire prendre le chemin de l'élévation intellectuelle. Et c'est ce que, dans un premier temps, Lacan ferait encore en ramenant la sublimation vers la chose, vers l'effrayante Dasein, qu'il imaginarisait dans son séminaire par l'entremise d'un monstre échoué sur une autre plage, beaucoup plus riante que celle d'Ostia, puisque c'est celle d'un autre cinéaste italien, Federico Fellini, dans La Dolce Vita, et où Lacan explique que la chose est un peu imaginarisée par cette espèce de gros monstre. Donc, en 60, Lacan ne tombait pas mais en 60, Lacan ne tombe pas pour autant dans le piège des conceptions édifiantes de la psyché et des comportements humains. Dans son séminaire, dans l'éthique, il rappelle que l'éthique de la psychanalyse n'est pas une spéculation portant sur l'ordonnance, l'arrangement des biens, elle implique à proprement parler la dimension qui s'exprime dans ce qu'on appelle l'expérience tragique de la vie. Cependant, explique Castanet, 15 ans plus tard, avec la rencontre avec Joyce, Lacan va plus loin et formule le célèbre escabeau. Le terme escabeau, avec sa typographie étonnante, je répète la citation que vous avez citée, on est sur la même longueur d'onde, dénude le réel auquel l'artiste se confronte et que les sublimations possibles voilent. Au cœur du beau, toujours, ce esca énigmatique, hors sens. Escabeau signifie assumer les restes du beau, ne plus croire à la plénitude idéale de la forme, ne pas avoir peur de perdre un peu de son apparente dignité, de morceler un peu sa digne apparence. Alors moi, ça m'a fait penser, vous me direz ce que vous en penserez, à une citation qu'on peut retrouver déjà dans une question préliminaire à tout traitement de la psychose. C'est l'être même de l'homme qui vient à prendre rang parmi les déchets où ces premiers ébats ont trouvé leur cortège, disait déjà Lacan dans ce texte, dans cet écrit. Donc, la prise en compte lacanienne de la sublimation, la dernière prise en compte, celle de l'escabeau, renverse la version freudienne de la sublimation. On pourrait dire que la sublimation, avec le dernier Lacan, vaut comme échec de l'échange du but immédiat de la satisfaction pulsionnelle contre d'autres buts plus élevés. Toutefois, en inversant ainsi la définition de la sublimation, Lacan renoue avec la découverte freudienne dans ce qu'elle avait de plus tranchant, à savoir, il renoue quelque part avec l'au-delà du principe de plaisir. Toutes les grandes œuvres de l'humanité, même les plus sublimatoires, sont systématiquement ruinées en leur fond par la satisfaction de la pulsion de mort. J'ai encore un peu de temps, là?
Très peu.
Très peu. Alors, je sautais un petit paragraphe pour en venir à une conclusion.
C'était quoi ton petit paragraphe?
Mon petit paragraphe, c'était un paragraphe où je faisais appel à un philosophe italien, Roberto Esposito, qui justement essaye de voir l'importance de Pasolini dans le contexte de la pensée italienne, et où il pointe comment Pasolini est toujours dans une tension entre justement vitalisme désespéré et quelque chose d'immobile qui, moi, me fait fort penser justement à ce qui revient toujours à la même place et qui serait plutôt du côté de la pulsion de mort. Mais je saute ça pour en arriver à voilà, la place de la mort, prévisible dans... Il y a toujours quelque chose qui revient à la même place. En fait, il y a toujours un échec qui revient. L'œuvre pasolinienne, elle ne cesse de mettre en scène cette vitalité désespérée qui est remise en cause des illusions du progrès et qui laisse apparaître la violence de la vie en tant qu'elle nous expose toujours à un échec, à la mort, à une régression. À Catone, le fils de Mamma Roma, les héros de Théorème, de Porcile, tous les héros pasoliniens finissent par déserter leur être, par plonger dans la mort, dans la folie, ou bien même se faire dévorer par les porcs. Alors, j'en arrive maintenant à un point de conclusion sur cette logique que j'essaie de développer, pasolinienne, en abordant les deux dernières œuvres de Pasolini, Pétrole et Salò. Ce sont les deux dernières œuvres abouties du vivant de notre auteur. Pétrole, c'est un roman de plus de 500 pages, très étonnant. Il est sans début ni fin. Il incarne une littérature proche de l'illisible. Il va intégrer des fragments, des ratures, des redites. Pasolini aurait même voulu que son texte comporte des passages en japonais, écrits en grec moderne. Des signes purement graphiques. Ces éléments, par leur matérialité, viennent donc obscurcir, obturer, condamner la signification. Non pas écrire une histoire, dit Pasolini, mais construire une forme. Forme qui consiste en, dit-il, quelque chose d'écrit. Le livre offre donc une forme à voir. Il s'offre davantage à la vue qu'à la lecture. Ça, ce sont des pages qu'on peut retrouver tout à fait dans Pétrole. Un roman vraiment étonnant, très difficile à lire, mais particulièrement intéressant. Et toute l'histoire de Pétrole, au fond, c'est l'histoire d'un événement de corps, puisqu'il commence, sans commencer, donc à mon part, un corps qui tombe au sol et qui se dédouble. Le corps de Carlo, le protagoniste de Pétrole, s'il y a un protagoniste dans ce livre. Salò, de son côté, adapte au cinéma l'écriture salienne dans le contexte de la République fasciste de Salò. Et Pasolini va y enchaîner des séquences où l'on bouffe de la merde, où tous les récits sadiens vont se voir voués à la foirade, des histoires inaudibles qui n'ont jamais de début ni de fin véritable. Interrogé sur le tournage du film, Pasolini déclarera « C'est mon film le plus cruel. Il contient beaucoup d'excès, des excès de cruauté. Mais c'est justement pour cela que j'accentue mon détachement. Le choc de Salò n'est pas gratuit. C'est une réponse au présent. Les visages aimés d'hier, écrit-il en 75, commencent à pâlir dans ma mémoire. J'ai devant moi, peu à peu, sans plus aucune alternative, le présent. Je réadapte ma tâche à une plus grande lisibilité, entre parenthèses, Salò, point d'interrogation. Donc ce que Pasolini est en train de dire là, c'est qu'il fait un film qui est extrêmement cruel, qui est absolument pas regardable, et que ce film s'attache davantage à une plus grande lisibilité. Un film qui est lisible au point qu'il va mettre dans ce film une bibliographie essentielle au générique du film, au même titre que les acteurs, au même titre que les monteurs, que les preneurs de son, il y a des auteurs. Donc il me semble un croisement, un chiasme qui s'opère là. L'impossible à regarder, agencé à grands efforts de violence et de sexualité, ne s'exerce que dans un souci d'une plus grande lisibilité. Cette lisibilité n'en est pas moins énigmatique. En effet, il va dire que le film n'est pas à comprendre. Malheur si mon film est compris. Bien sûr que je risque moi-même d'être mal compris, mais cela fait partie intégrante du film. Donc, entre ce dernier roman et ce dernier film, s'opère une sorte d'inversion, de tension entre langage et image. Pétrole, le livre, est une forme à voir. Et Salaud, le film, une écriture à lire. Donc dans un cas comme dans l'autre, plaisir narratif et plaisir scopique disparaissent, échouent, et laissent place à la radicalité d'une forme, d'une lisibilité ou d'une illisibilité. Écriture, graphie, bifure, matérialité du mot, matérialité de l'image s'imposent alors dans leur opacité physique. On ne lit plus bien avec pétrole, on ne voit plus bien avec Salaud. Pourtant, on continue de lire et on continue de regarder. À moins que ce ne soit nous qui soyons lus par le livre, nous qui soyons vus par le film. Avec Pasolini, le langage de la signification n'est qu'une apparence derrière laquelle émerge la forme hors sens, défiant la compréhension. L'image cinématographique se fait texte, l'image cinématographique se fait bibliographie. Du coup, de ce parcours, moi je voudrais terminer par une question, et la question que je me pose, c'est la question que je me suis posée aussi à la fin, en fermant le CD7, et je me demandais dans quelle mesure le destin tragique de Pasolini, la fulgurance avec laquelle son œuvre est baignée par l'ombre de la mort, comment ça éclaire l'escabeau. C'est-à-dire que dans l'empirisme hérétique, on peut lire « Sous l'ombre de Thanatos, on peut effleurer la révélation de la vérité ». Alors ma question, ce serait celle-ci. Quel lien entre pulsion de mort et escabeau ? Merci.